Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vous le savez, 4 policiers ont été mis en examen et 2 d'entre eux sont écroués dans l'information judiciaire ouverte sur le tabassage du producteur Michel Zecler dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont été écroués. Et dans cette affaire, effectivement, les débats sont parfois un peu électriques. François, qui habite Orbec,
oui.
Que je resalue à nouveau. Quand je disais, est-ce que c'est une bonne mesure, est-ce que c'est une bonne décision selon vous que ces 2 policiers soient écroués?
Alors, c'est certainement une bonne décision si c'est une décision juste. Mais je crois que dans les 2 policiers, il y a un policier qui a 23 ans, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que c'est un policier qui vient juste d'arriver sur le terrain, qui a été formé, on ne sait pas trop comment, et qui est mis dans le bain directement avec on ne sait pas quel tuteur. Et ce gars-là se retrouve aujourd'hui incarcéré. Et il est certain qu'ils ont fait une chose anormal dans une démocratie, et il est normal qu'il soit jugé et condamné. Mais je veux pas que ça soit dans l'urgence pour faire plaisir à la vindicte populaire. C'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que on peut pas se permettre aujourd'hui de réagir simplement sur l'émotion. Les policiers sont mis en examen, certains sont écroués, ça c'est pour l'affaire de Michel Zecler. Et puis le samedi, il y a la manifestation qui arrive, et il y a des violences sur des policiers, et il y a très peu d'interpellations. Donc je me pose des questions sur comment les policiers peuvent vivre leur métier aujourd'hui, parce que il y a un grand homme que tout le monde nomme sans arrêt, qui s'appelle le général de Gaulle, qui avait compris quand il est arrivé à Paris que s'il n'avait pas la police avec lui, il ne pouvait pas établir un État démocratique.
Non mais j'entends tout ce que vous dites. Alors je pourrais vous dire qu'en 68, s'il y avait eu des vidéos et des tweeteurs qui relayaient ces vidéos, ça aurait peut-être été plus compliqué pour le maintien de l'ordre, parce que tous ceux qui témoignent des manifestations d'il y a 50 ans disent que c'était infiniment plus musclé qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est-à-dire que les policiers chargeaient, et passez-moi cette expression, ça ne rigolait pas. Mais là, il n'y avait pas d'image.
Bon, il n'y avait pas d'image, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi des moments très difficiles. Il y a eu un mort en 1968, et malgré tout, la démocratie a quand même continué de vivre. Or, aujourd'hui, il y a des images, mais les images, elles montrent quoi? Que quand une manifestation a lieu dans la rue pour un effet démocratique normal, il y a autour d'une manifestation des casseurs qui, eux, on a l'impression qu'ils voyagent ici comme dans un pays qui est...
Et ce problème, pour tout vous dire, je n'arrive pas à comprendre ces problèmes de casseurs et des black blocs. Je n'arrive pas à comprendre.
Donc, il faut qu'on m'explique comment, de
manifestation en manifestation, ces gens-là arrivent et cassent tout. Je n'y comprends rien. Je ne suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre. Je n'arrive pas à comprendre. Donc,
Maintenant, dans les 4 policiers qui sont mis en examen, moi, je voudrais connaître exactement quelle a été leur formation pour être sur le terrain à ce moment-là.
Ça n'excuse pas le geste,
mais on peut comprendre que dans la mouvance, parce qu'ils n'étaient pas tous les 4, moi, j'ai vu une vidéo où il y avait une vingtaine de policiers en extérieur. Il n'y en a pas un seul qui est venu dire « Bon, attendez, les gars, là, on arrête un petit peu, là, ça va un peu trop loin. » Il n'y en a pas un seul. Donc, ça montre qu'il y a quand même, peut-être au niveau de la police, un ras-le-bol. Et moi, je suis premier à rouspéter quand je me fais contrôler.
Donc, vous avez tort, faut pas rouspéter, comme vous dites. Il faut les aider aussi, les policiers.
Mais c'est pas pour autant que je vais les frapper, et c'est pas pour autant que je vais pas leur donner mes documents.
Dernière chose, François, est-ce que vous considérez qu'un policier doit être exemplaire? Est-ce que vous considérez que précisément parce que il représente l'autorité, j'allais dire républicaine, il n'a pas le droit à l'erreur et que forcément la sanction est à la hauteur de cette exemplarité que il est aujourd'hui, deux personnes sont écrouées. Est-ce que vous considérez ça?
Alors, les policiers doivent être exemplaires de par leur fonction, comme vous dites. Ils ont une fonction de représentation de l'État et de conservation des droits et des lois. de par leurs actions, donc ils se doivent d'être exemplaires. Mais il ne faut pas pour autant que leur sanction pénale soit plus importante que pour le citoyen lambda, parce que tout acte délictuel, tout acte de violence est proportionné à une sanction pénale qui est inscrite dans notre droit pénal.
Merci François de cette première intervention. On va marquer une première pause et c'est vrai que c'est un sujet qui fait réagir. C'est vrai aussi parce que je l'ai entendu tout le week-end que souvent les uns et les autres sont agacés de cette société médiatique parfois qui choisit ses victimes et que chacun souligne que lorsqu'il y a des policiers qui sont tabassés, ni Monsieur Griezmann, ni Monsieur Mbappé n'ont fait un tweet pour dire j'ai mal à la France. J'ai entendu ça tout le week-end, donc je vous le répercute. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Laurent Tessier est là, que je salue. Bonjour Laurent.
Bonjour,
c'est
Pascal,
lundi.
Bonjour à tous.
Tout va bien.
Et bientôt le 1er décembre. Bientôt l'ouverture du calendrier de l'Avent.
Mais bien sûr, le 1er décembre, c'est peut-être le plus beau jour de l'année. Parce que vous avez cette perspective de Noël qui arrive. Il y a les noëlophiles et les noëlophobes. Et là, on a 24 jours devant nous pour les noëlophiles. Magnifique.
Et à partir de demain, nous chanterons des chansons de Noël. En attendant,
bien sûr,
on va revenir à un sujet qui nous a animé pendant tout le week-end. Notre société est-elle de plus en plus violente? Eh bien, je vous rejoins, Pascal, écrit Bernard sur la page Facebook de l'émission. Je ne comprends pas. Comment arrive-t-on à chaque fois à ces images de violence à la fin des manifestations? J'ai été choqué, rajoute Thierry, de voir cette vidéo d'un policier subir un lynchage par des Black Blocs. Où sont les Antoine Griezmann, les Kylian Mbappé, demande Gabriel? Où sont-ils pour dénoncer cette violence subie par nos forces de l'ordre? Pour Karine, il est temps que tout le monde retrouve son calme. Un policier manifestant, ce pays devient fou et j'en ai marre de cette société, s'énerve Véronique. Marre de ces casseurs, de ces gens qui se croient tout permis et marre aussi de voir des policiers se prendre pour des cow-boys.
Adama est avec nous. Bonjour Adama, vous étiez à la manifestation samedi.
Oui, c'est ça, exactement.
Votre témoignage.
Alors moi, j'ai été à manifester parce que je suis pour le retrait de cet article 24 qui ne nous permet pas de filmer les vidéos. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu de temps parce qu'il y a une situation qui me touche un petit peu, c'est la situation le mort d'Ibrahim Aba, Ibo, l'affaire dite Ibo, qui est mort à Villers-le-Bel le 6 octobre lors d'un contrôle de police en moto. C'est-à-dire qu'il y avait des caméras de vidéosurveillance et ça fait un an qu'avec la famille, on attend de voir les vidéos justement pour savoir si la police est en tort ou pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne sommes pas contre la police. Nous n'accusons pas les policiers, nous n'accusons pas la police, mais il y a des policiers, ce sont des êtres humains, comme nous tous, ils font des erreurs. Et lorsqu'il y a des policiers qui font des erreurs, on demande à ce que ces policiers soient sanctionnés. Et là, pour savoir s'il y a erreur ou pas, justement, pour pouvoir calmer et ne pas attiser une haine envers la police, on demande à voir les vidéos pour voir la preuve ou non de leur culpabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a...
L'enquête pour homicide involontaire qui avait été confiée à l'IGPN, qui est en fait au point mort. Et en fait, il y a pile un an, c'était en octobre à Villiers-le-Bel. Et voilà, Ibrahim Ba s'était engagé au guidon de son motocross dans la rue dite Fellerbe. Et puis à 100 mètres, au carrefour de la rue, du boulevard Salvatore Allende de l'allée des Bleuets. Eh bien, trois véhicules de police achèvent un contrôle routier après avoir poursuivi une Peugeot 206 et à l'arrivée du jeune homme de 22 ans, un fourgon de police stationné sur le trottoir réalise une manœuvre pour répartir des lieux d'intervention selon les fonctionnaires et Ibrahim Ba s'engage sur le trottoir et percute violemment un poteau. C'est ça, hein. Je rappelle,
exactement,
parce que les auditeurs, je suis pas sûr qu'ils sachent précisément de quoi nous parlons. Mais comment dire, là on est. Je comprends d'abord que cette affaire vous touche, hein, bien sûr. Mais moi, ce que je saisis mal, c'est vous dites que vous avez manifesté pour contester la loi, mais la loi n'interdit pas telle qu'elle est formulée. Je l'ai sous les yeux, elle n'interdit pas de filmer. Elle n'interdit pas. La loi, elle dit ceci. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de police. C'est pour ça que je trouve que là-dessus, il y a de mauvaise foi. Rien n'interdira dans la loi de continuer de filmer les images, Adama.
Oui, mais la diffusion de ces images, c'est-à-dire, on va prendre l'exemple de Michel qui a été passé à tabac la semaine dernière. s'il n'y avait pas les caméras de surveillance, il y a encore un acte répréhensible qui serait passé sous silence.
Mais non. Mais pourquoi vous dites ça? Pas du tout.
Parce que je pense qu'on
ces caméras,
pas...
Mais ces caméras, elles existeront toujours avec la loi. Rien ne changera avec ces caméras, avec cette loi. La loi, elle interdit de diffuser.
Alors, oui, alors ce qu'il faut comprendre, avant de diffuser, et moi je suis entièrement d'accord de dire qu'on n'est pas là j'ai envie de dire, mettre l'identité des policiers en péril. On n'est pas contre la police. En tout cas, je parle pour moi et
J'en suis sûr, Adama. Mais voilà. Ce que je comprends pas, et à chacun je pose les questions, c'est-à-dire qu'on reproche à quelque chose mais à cette loi et il n'y a pas dans cette loi ce qu'on lui reproche.
Moi je vais aux manifestations. J'y étais encore samedi. Mmh. Et lorsqu'on filme, on se fait agresser
par qui? Par des policiers. Alors ça, c'est autre chose.
Je vous le dis, qui nous empêche de filmer. C'est-à-dire que lorsque je filme, on ne sait pas déjà si je vais m'en servir pour diffuser ou pas. Et je me fais agresser. Il y a des photographes, notamment un ami photographe, qui se fait agresser parce qu'il prend des photos de la police. Monsieur, nous sommes dans un état de droit, on ne peut pas accepter cela. C'est inacceptable.
Mais oui, mais ça, ça n'a rien non plus à voir avec la loi. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ça n'a pas de rapport avec la loi. Que des policiers, effectivement, dans l'énervement, dans l'agacement... c'est très compliqué, d'ailleurs, d'être policier aujourd'hui en manifestation, parce que
on l'entend. On sait que c'est compliqué pour les policiers. Et encore une fois, dans nos propos, nous ne cherchons pas à jeter le discrédit sur la police. Mais c'est comme dans tout corps de métier, et il y a des personnes qui font bien leur boulot.
Mais
et
je suis d'accord. J'entends ce que vous dites, mais sur la loi elle-même, je ne saisis pas où est le problème de cette loi, pour tout vous dire. Alors, manifestement, elle fait réagir tous les journalistes. Donc, je me mets un petit peu en marge, d'une certaine manière. Mais je ne saisis pas exactement avec l'article 24 tel que je viens de le lire où est le problème. Et d'ailleurs, je vais vous dire ce qui est aussi paradoxal, c'est que dans les médias dits mainstream, on floute bien souvent ceux qui cassent. On floute, là, il ne s'agit même pas de flouter les policiers, mais on floute entre guillemets, les voyous, les délinquants, quoi, les délinquants possibles, ceux qui sont en train de casser, on les floute. Et on ne protégera pas la police, donc je trouve ça étonnant.
Moi, je suis contre ça, hein, de flouter ceux qui cassent. De mon point de vue personnel, il ne faut pas les flouter, il faut les attraper et les mettre en prison. Ce sont des casseurs. Gens qui viennent pour casser, qui ne respectent pas la loi. C'est ce que j'expliquais, c'est comme dans tout corps de métier, c'est comme dans la vie de tous les jours. Les gens qui ne respectent pas les lois, il faut les mettre en prison. Il faut qu'ils soient jugés. Et la justice, après, fera son boulot. Mais nous, justement, on a un sentiment que la justice ne fait pas son boulot. Excusez-moi de revenir encore sur l'affaire Libo, parce que ça fait plus d'un an que ça dure. On a eu une autre affaire où les policiers n'étaient pas en cause, et là les vidéos sont sorties assez rapidement. Vous comprenez ce que je veux dire pour
J'entends bien, là malheureusement je peux pas vous répondre parce que
mais je ne vous demande pas de réponse, hein. Très honnêtement, je vous remercie de nous donner la parole. Bah. Et c'est des choses sur lesquelles nous on a envie d'appuyer parce que on n'est pas.
Mais quand vous dites nous, c'est ça. Pourquoi vous dites nous?
Parce que moi, je suis avec d'autres personnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas représentatif de tout le monde, mais je ne peux pas parler au nom de tous les Français. Mais je sais qu'il y a certaines personnes, en tout cas dans mon entourage, qui sont d'accord avec moi, et je peux me permettre de porter leur parole. C'est la raison pour laquelle je dis nous. Après, d'accord. Moi, je n'ai pas de mandat pour parler au nom des Français.
Non, mais en plus, c'est très intéressant, Adama, ce que vous dites, et puis la manière dont vous le dites, on sent que la discussion, évidemment, est intéressante et elle est possible, ce qui est déjà la base des discussions.
Vraiment, on veut vraiment, nous on cherche vraiment à apaiser les relations avec la police parce qu'il n'y a pas de gagnant dans cette histoire, dans des querelles. Les policiers ne sont pas mauvais, on n'est pas contre la police.
Ah non, mais moi je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous, je pense qu'effectivement d'autres... cherche des buts qui ne sont pas aussi bienveillants que les vôtres. Et je vois bien dans cette volonté parfois de déstabiliser la police, c'est aussi de déstabiliser les institutions, bien sûr. Ne soyons pas dupes de certains, et notamment de l'ultra-gauche, disons-le, qui sont dans cette démarche-là, mais qui sont ultra-minoritaires également. Merci en tout cas, Adama. Merci beaucoup. Et on va poursuivre la discussion. Je salue Greg Caranoni. Vous n'avez pas manifesté, vous, samedi?
Non.
C'est intéressant. Oui. Non, j'y suis pas allé, mais j'aurais pu aller parce que c'est toujours intéressant, évidemment, de voir qui est là, comment ça se passe. Tous les gens, par exemple, que j'ai eu au départ m'ont dit que c'était incroyablement pacifique, sympathique même. Et puis, tout d'un coup, arrive, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas d'où, 150 ou 200 personnes, et la manifestation est fichue. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit être entendu à partir de 18h15 aujourd'hui pour apporter des précisions sur les dernières polémiques autour des violences de la police. On pense évidemment à ce qui s'est passé sur la place de la République en début de semaine et puis à ce qui s'est passé dans l'affaire Michel Zecler. Yann est là. Bonjour Yann.
Bonjour Pascal.
Yann qui est commercial à Paris.
Oui, en fait, j'appelais parce que je crois que sur l'affaire de Michel Zecler, beaucoup de médias, pour, me semble-t-il, vraiment la majorité d'entre eux, réagissent à chaud, dans l'émotion, et ne représentent pas forcément l'intégralité de ce qui s'est passé. En deux mots, imaginez-vous la chose suivante. Vous êtes policier, vous avez pour mission de faire respecter le port des masques, il fait nuit noire, et dans une rue, vous voyez un type d'1m80, noir, rappeur, qui accessoirement pratique les arts martiaux, et vous l'interpellez, vous lui dites « Monsieur, mettez votre masque ». Le type vous insulte et s'enfuit dans
mais
un local.
Mais ça, vous en savez rien du tout, s'il a insulté.
Vérifier,
ça veut dire quoi?
Ça veut dire que l'information a transpiré et qu'évidemment...
Mais a transpiré, mais l'information, c'est même dans les déclarations des... comment dire, dans les auditions, j'ai pas entendu ce que vous dites. Même les policiers ne l'ont pas dit tel que vous le dites.
Moi, on m'a rapporté qu'ils l'avaient dit.
Mais qui ont...
Des gens qui sont justement dans ces créneaux-là, quoi.
Mais que oui, mais c'est... On, vous savez, alors je vais vous dire un truc. C'est pas propre et beau ce que je vais dire. En école de journalisme, on disait « on est un con ». C'est la première chose qu'on nous apprenait. On est un con.
Pascal, mais on... des cons me l'ont rapporté.
Mais voilà. Alors ça, je dirais pas ça. Mais écoutez, moi, je veux bien qu'on appelle le service police-justice d'RTL. Ce que vous dites, et c'est toute la difficulté d'ailleurs, c'est que ce que vous dites, je ne l'ai pas entendu. Et je ne sais même pas si c'est dans les procès-verbaux d'audition.
Alors.
Et puis de toute façon, je vais vous dire. Ça ne
justifie pas.
Mais voilà, donc même non. Ça ne justifie pas. Les images, elles sont accablantes.
On est d'accord.
Bon, si vous êtes d'accord, où est le problème dans cette vidéo?
Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que il y a eu un déclenchement à l'affaire et qu'à un moment, si vous voulez, quand vous le disiez vous-même tout à l'heure avec les contrôles de police avec François, quand la police vous interpelle et vous dit arrêtez-vous, mettez votre masque, présentez-moi vos papiers ou ce que vous voulez, vous partez pas en courant parce que c'est ce qui s'est passé, hein, vraiment.
Mais
c'est ce qui s'est passé. Le type, il l'a dit lui-même, il s'est enfui dans son local, il a essayé de se barricader, il a pas réussi à fermer la porte assez vite. Donc si vous voulez, il y a eu un phénomène déclenchant. Donc c'est là où c'est peut-être incomplet, parce que bien sûr que c'est pas acceptable de tomber à trois sur un type, même s'il est coupable de quoi que ce soit.
Surtout, j'ai envie de dire, s'il est coupable, on ne traite pas les gens comme ça.
Mais on est bien d'accord.
Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est terrible pour ces jeunes policiers, parce que toute leur vie, évidemment, est saccagée par un geste qui sans doute ne font-ils pas ça tous les jours, sans doute ne l'ont-ils même jamais fait. On ne peut pas les réduire à ce geste-là, mais il n'empêche, et c'est toute la difficulté, ils ont été en dehors des clous et toute leur vie ils vont le payer.
Donc c'est terrible parce que en fait il y a un chaud et froid continu qui est projeté sur les forces de police. Un jour on les applaudit au moment du Bataclan, l'autre jour ils se font pourrir par le président de la République lui-même. À tort ou à raison, c'est pas le sujet, mais il y a des allers-retours permanents, si vous voulez, qui sont extrêmement déstabilisants dans l'exécution de leur mission, et qui font qu'on se retrouve dans une situation où finalement, on l'a vu sur les manifestations récentes qu'il y a eu pour l'article 24 dont vous parliez tout à l'heure, on est franchement plus en sécurité. Les 200 ou 150...
Mais vous sentez, par exemple, vous sentez plus en sécurité, vous, en France?
Ah non, moi j'habite Paris, je suis pas en sécurité en France. Hein.
Et pourquoi?
Parce que, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé dans les quartiers populaires? Allez dans les quartiers populaires, vous êtes pas détendu. J'étais à Saint-Denis l'autre fois, je le dis. Franchement, c'était limite. Hein. Il se trouve que moi, je suis assez basiquement d'âge moyen, blanc et voilà. Et ben, je suis désolé, vous n'êtes pas à l'aise et vous sentez la violence partout.
Bah ça, c'est un sentiment. Mais vous avez été agressé ou pas?
Moi, non. Mon entourage direct, oui.
Non, mais je veux pas nier la réalité. Le sentiment d'insécurité, il existe. Je vous assure, je veux pas le nier. Et comme vous le dites très justement, je suis pas le plus souvent dans les quartiers dont vous venez de parler. C'est bien évident. Donc, j'entends ce que vous dites et c'est pourquoi d'ailleurs que notre discussion existe. Alors, restez là puisque Patrick, visiblement, partage votre avis. Bonjour Patrick, qui est commerçant dans le Morbihan. Et d'ailleurs, au moment où je le dis à 13h24, Nicolas Sarkozy est en train d'arriver au tribunal de Paris puisque le procès va pouvoir recommencer. Nicolas Sarkozy qui vient d'arriver à l'instant. Procès des écoutes, Nicolas Sarkozy est au tribunal. Patrick, c'est à vous.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour.
Moi déjà, je tiens à vous féliciter parce que vous êtes l'un des rares journalistes qui fait vraiment le métier de journaliste, car vous prenez pas de parti, vous essayez de clarifier les choses.
Un petit peu quand même, de temps en temps, un petit peu quand même.
Oui, il faut faire un peu le ménage, mais bon, voilà. Mais vous êtes très bien, et surtout le matin, alors ne changez rien, même si on vous fait la pression, ne changez rien.
Il n'y a pas de souci, je suis un grand garçon.
Concernant les faits, je suis un peu d'accord avec ce monsieur. Quand vous êtes pris parce que vous n'avez pas de masque, ben voilà, vous attendez, vous n'essayez pas de fuir. 135 euros quand on est, entre parenthèses, soi-disant, producteur de disques, je pense qu'on a des revenus, donc 135 euros,
c'est pas la mort. Non mais Patrick, c'est pas le sujet quand même, voilà. Convenez-en que pas le sujet. Bah non.
Mais si, parce qu'à la base, il y a ça. Donc,
mais
si
oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire
tempéré, il ben, fallait obtempérer.
Et alors, il a mérité qu'on lui casse, qu'on lui passe.
Non, j'ai pas alors. Dit ça. Je dis qu'à la base, il faut obtempérer.
Mais oui, alors, on est tous d'accord. Mais si tu n'obtempères pas, si, il y a quand même tout le monde n'est pas.
Oui. Non mais attendez. Attendez, laissez-moi finir. Donc là, en ce qui concerne les policiers, ils vont être jugés, ils vont être rendus en justice. Moi, je demande à ce que ce monsieur qui n'a pas réfuté les faits paye 135 euros.
Voilà. Si vous voulez, il paiera 135 euros. Enfin, il a été tabassé, je veux bien qu'on le fasse payer. La victime, c'est quand même lui, si vous me permettez.
Mais oui, mais peut-être. Mais en attendant, il n'empêche que, à partir du moment où vous êtes un citoyen, à partir du moment où on vous dit il faut mettre un masque, vous ne le mettez pas, vous n'essayez pas de fuir. Surtout pour 135 euros. À moins que vous soyez sans papier, que vous soyez... Là, on peut le comprendre. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne qui est en plus un pied-à-terre, bon, voilà quoi, on se doit d'être responsable. Alors, je ne suis pas d'accord et je conteste tout ce qui a été fait par les policiers, on est bien d'accord. C'est inacceptable qu'ils aient pu se conduire de la sorte. Mais je voudrais quand même que l'on mette en avant le fait qu'il y avait une infraction. Et ça, tout le monde l'oublie. C'est-à-dire qu'on limite, ils se sont fait du bien, ils sont déchaînés parce que ça leur a fait du bien de pouvoir taper sur un black. Non, c'est pas ça. Ils ont pris une personne et cette personne était en incivilité. Point barre. Et surtout une incivilité qui, non, mais, au jour d'aujourd'hui,
elle est dérisoire. Comment dire, au regard de la suite, un port de masque. Seulement ne justifie pas, mais rien ne justifie d'ailleurs.
Mais
on est quand même sur une infraction, pardonnez-moi, qui est dérisoire.
Elle est dérisoire, mais ceci en temps, elle ne doit pas être occultée. Et aujourd'hui, elle est occultée.
Bah écoutez, grâce à vous, elle ne l'est plus.
On ne doit pas l'occulter. Il était en infraction. On l'a mal considéré. Les policiers ont mal agi, mais à la base, il était.
Vous êtes commerçant dans le Morbihan. Vous vendez quoi?
Ouais. Oh, j'ai une petite supérette.
Bon, et ça marche bien?
Ça passe très bien pour nous. Oui, ça va. Si ce n'est que là, tout le monde se rue dans les grandes surfaces et je pense que malheureusement, la pandémie n'est pas terminée.
Combien de mètres carrés la petite supérette?
Aux alentours de 200.
Ah bah c'est pas mal quand même, attendez, petite supérette, vous dites, c'est le sketch de Fernand Reynaud, c'est le sketch de Fernand Reynaud, je suis un pauvre paysan, ça a eu payé, wow, on a une petite supérette, 200 mètres carrés, je vous ai vu venir hein, Patrick. Bon, bonne journée dans le
monde. N'hésitez pas à venir nous voir un de ces jours.
Mais moi, attendez, vous êtes, je sais même pas où vous êtes à Vannes?
À Monterre-Blanc, magnifique, juste à côté.
Magnifique le Morbihan.
Ben oui, et on fait des superbes repas pour Noël, parce qu'on fait aussi traiteur.
Bah écoutez, n'hésitons pas, à tout de suite.
À bientôt, au revoir.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et je vous fais un petit breaking news parce que Thierry Herzog est en train d'arriver. Le procès va commencer, le procès des écoutes. Nicolas Sarkozy est arrivé, Monsieur Azibert est donc arrivé. Il sera entendu en direct, si j'ose dire, et non pas en visioconférence. Et Thierry Herzog, qui est également mis en cause dans cette affaire, est arrivé au palais de justice. Alors, nous sommes avec Frédéric. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Monsieur Porro.
Vous êtes gendarme ?
Oui, tout à fait. Oui.
Vous êtes dans les Hauts-de-France ?
Dans les Hauts-de-France, c'est
bon.
Ça.
Vous participez à des manifestations ?
Non, pas. C'est pas mon travail principal. Ça, on peut en côtoyer de temps en temps, mais c'est pas mon activité.
Bon. Quel est votre sentiment sur ce qui s'est passé, par exemple? Je disais, moi, les Black Blocs, je le disais assez naïvement, d'ailleurs, je comprends pas. Je comprends pas comment, depuis maintenant, les manifestations Gilets jaunes ont commencé il y avait 2 ans. Je ne comprends pas comment il est possible que ces gens-là viennent perturber régulièrement toutes les manifestations.
Alors en effet, ouais, c'est des personnes qu'on retrouve régulièrement et notamment sur de gros incidents, c'est vrai. Je pense que si c'était si simple que ça à résoudre, ça aurait déjà été fait depuis longtemps. Mais je pense aussi que c'est des personnes aussi très très organisées et qui ont beaucoup de temps à perdre aussi, donc qui passent leur temps à s'organiser pour commettre leurs méfaits lors des manifestations. Donc la solution miracle, je ne sais pas s'il y en a une, mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi comprendre, et je pense que la majorité de la population le comprend, c'est que dans une manifestation, lorsqu'ils interviennent, en fait, on a quand même un effet de masse où ces gens-là se mélangent volontairement à une population pacifiste hein, et qui savent très bien qu'ils vont payer les conséquences, parce qu'une grenade lacrymogène qui est lancée au milieu de tout le monde, forcément même les pacifistes vont la recevoir, et après ça va leur donner aussi une part pour pouvoir après monter les gens aussi contre les forces de l'ordre, quoi. Ils savent ce qu'ils font quand ils font ça, je pense. Alors maintenant, je pense que faciliter le travail des forces de l'ordre dans ces cas-là serait peut-être pour les organisateurs et les participants pacifistes de dire, ben, quand ça dégénère, on fait un retrait du percuteur, on s'en va, et comme ça, il ne reste plus que les casseurs et les délinquants, et la police n'a plus qu'à s'occuper d'eux. Quoi. Ça serait une formidable aide, je pense, pour les camarades des forces de l'ordre. Mais bon,
quel regard le gendarme que vous êtes pose-t-il sur les images de la vidéo de l'interpellation musclée qui a eu lieu auprès de Michel Zecler, et est-ce que vous trouvez qu'il soit juste que deux de ces policiers soient aujourd'hui sous les verrous?
Après, il y a une justice qui fait son travail. On va pas, je vais pas m'exprimer. De toute façon, je m'exprime en plus en tant que citoyen. Hein. Donc, mon sentiment de citoyen, c'est que des choses comme ça ne doivent surtout pas arriver, encore moins forcément dans les forces de l'ordre. Hein. Par contre, à mon sentiment, c'est que c'est dramatique d'en arriver là. En effet, on en parlait avec l'auditeur précédent, pour une infraction à la base qui est futile, quoi. Je pense que le gros problème là-dedans, c'est pourquoi une situation aussi comme ça arrive pour un simple non-port du masque. Je pense qu'il y a déjà une grosse problématique à la base, et en effet, après, il y a sans doute des fautes qui ont été commises derrière, quoi. En tout cas, ça entache en plus l'image de tout le monde, quoi. Donc après,
vous en parlez, j'imagine, entre vous, le sentiment dominant parmi vos collègues de la gendarmerie?
Non, il y a pas. Chacun a son avis. De toute façon, on n'est pas mieux placé que quiconque pour savoir ce qui s'est passé exactement sur place. On n'y était pas. Donc, on peut pas se permettre de s'exprimer là-dessus. La seule chose, c'est qu'en effet, d'une petite infraction, on est parti sur un événement dramatique. Hein, parce que moi, je trouve ça dramatique. Par contre, ça va soulever aussi un certain problème. C'est que, ben, en effet, pour un citoyen lambda qui va accepter de se faire contrôler pour un non-port du masque et qui va accepter gentiment de se prendre 135 €, après, dans des cas comme ça, les collègues vont peut-être dire aussi, ça risque de tourner au drame, donc lui, ben, il va rentrer tranquillement chez lui, par exemple, ou alors il va tranquillement s'enfuir et il n'aura pas son amende de 135 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va rentrer aussi dans un problème, c'est est-ce qu'on va risquer l'incident? Est-ce qu'on va risquer l'incident pour faire respecter la loi? Mais dans ce cas-là, on rentre aussi dans une contradiction par rapport au citoyen qui va se laisser verbaliser, quoi. Je veux dire, la loi.
Mais merci Frédéric. Merci. On parlera entre 14h et 14h30 de la lecture, et on va interroger les uns et les autres quels lecteurs sont-ils. Frédéric, par exemple, quel est le dernier livre que vous ayez acheté?
Le dernier livre que j'ai acheté, bon, c'est un livre très technique sur un travail de passion que je fais à côté, donc je peux.
Ça m'intéresse toujours. C'était quoi votre passion, comme vous dites?
Non, mais je pourrais pas se m'en dire plus.
D'accord.
C'est par rapport à mon travail. Ouais.
Mais, d'accord. Je et c'était quand? Et c'était quand?
C'était il y a un mois de ça.
Et les Français lisent, paraît-il, 21 livres par an. Vous en lisez plus ou moins?
Non, je ne suis pas un très grand lecteur. Je lis 5 à 6 livres par an, pas plus.
Ouais. Bah écoutez, ouais, ça va être intéressant.
Je peux me permettre de faire une petite remarque quand même.
Oui.
Sur les images qu'on a vues, sur les violences quand même, parce que ce qui était le thème de l'émission, on assiste quand même à de plus en plus, pour moi, ce qui s'apparente à des tentatives d'homicide de policiers. Parce que quand on jette des cocktails Molotov, là, il ne s'agit plus juste de violence, mais de tentatives d'homicide. Et il faut se dire quand même que ça arrive quotidiennement. Et je pense que voilà, il faut vraiment que ça s'arrête, parce que les collègues sont en grosse difficulté et pour faire leur travail au quotidien aussi, quoi. Il faut dire que les gens qui sont sur place sur des manifestations ne sont pas là pour discuter les idées des gens qui manifestent. Ils sont uniquement là pour les protéger déjà en premier lieu, et ensuite pour protéger tout ce qui est mobilier urbain que nous payons avec nos impôts. Donc la population doit aussi se réjouir de ça, et je pense que le petit coup de main que je vous parlais tout à l'heure par rapport au Black Bloc, ce serait peut-être une bonne solution aussi, une petite aide apportée aux forces de l'ordre qui sont là pour les protéger avant tout, quoi.
Bah merci, vraiment merci. Et puis donc ça, vous pouvez déjà intervenir sur la lecture si vous le souhaitez, hein, parce qu'on parle que des policiers. On peut parler aussi des vaccins, je vous l'avais dit, des messes aussi, parce qu'on est monothème depuis tout à l'heure. Une messe avec 30 personnes maximum, ça n'avait aucun sens, et le Conseil d'État a ordonné au gouvernement de revenir dans les 3 jours sur sa mesure. Donc tous ces sujets sont possibles. 13h37, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
À 13h40, vous allez nous annoncer, Laurent Tessier, le programme entre 14h et 14h30 qui sera littéraire.
Une question essentielle, avez-vous le goût de la lecture ? 9 Français sur 10 se déclarent lecteurs et une moyenne nous interpelle tous. Les Français lisent en moyenne 21 livres par an. Ce sont les femmes qui lisent le plus, ainsi que les personnes de plus de 65 ans. Mais comment inciter les plus jeunes à s'y mettre ?
En achetant régulièrement et en lisant aussi beaucoup nous-mêmes. Par mimétisme social, l'enfant va se rendre compte que c'est une habitude, c'est quelque chose d'intéressant. Puis on partage plein de moments ensemble.
La seule chose, pour que ce soit des vrais lecteurs, il faut que les parents donnent des livres très tôt.
Et que vous apporte la lecture ? Préférez-vous les romans, les essais, les biographies, les bandes dessinées ? Quel est votre coup de cœur en ce moment ? 24% des Français sont lecteurs de livres numériques. Préférez-vous la version papier, le plaisir de tourner les pages ? Avec nous en studio à 14h, le monsieur livre de RTL, de notre service culture, Bernard Lehuche.
Et vous vous souvenez, en 6e, il y avait cette rédaction « Pourquoi lisez-vous ? » Elle est très difficile à répondre, cette question, finalement. Et on ne sait jamais pourquoi, forcément. Et moi, j'ai répondu à la question, je lis par plaisir.
Voilà. Plaisir, découverte.
Par plaisir.
Et connaissance.
Donc, autrement, alors après, on est obligé parfois de lire des choses, par obligation. Mais il faut que ce soit un plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, un livre, vous lisez 50 pages. Si ça ne vous plaît pas, vous l'arrêtez au bout de 50. Mais allez sur les 50 premières. Ça, c'est un bon test. 50 pages.
On teste, on y va.
Qui est avec nous ? Baptiste est là. Baptiste qui est étudiant à Plo-Hermel, encore dans le Morbihan. Bonjour Baptiste.
À Paris, d'ailleurs je voulais répondre un
vous
peu...
Vous étiez à La République, Baptiste ?
Oui, c'est ça, j'étais à la manifestation. Mmh. Et d'ailleurs j'ai vécu à Saint-Denis, donc c'était par rapport à la déclaration de Monsieur Yann qui m'a précédé. Moi j'ai jamais été agressé à Saint-Denis et je m'entendais très bien avec mes voisins. Donc je pense que ce sentiment d'insécurité est très subjectif et très construit aussi parfois. Donc, bien sûr, il y a de la violence et bien sûr, il y a du crime, mais je pense que c'est quelque chose qui peut aussi, qui n'est pas du tout universel. Sinon, pour revenir aussi par rapport à ces déclarations un peu lunaires que moi j'ai ressenties sur la mise en regard du fait que Michel Zecler ait porté un masque et que du coup, forcément, ça justifiait un peu la conduite des forces de l'ordre. Moi je suis vraiment attristé de voir que cette situation sanitaire dans laquelle on est actuellement puisse amener à la justification d'un tabassage, d'une violence ultime, sans aucune ambiguïté d'ailleurs, de plusieurs minutes d'un être humain, quoi. Et d'oublier que ce sont aussi des actes racistes, hein, parce que comme en témoigne Michel, j'ai l'impression qu'il y a eu énormément d'insultes racistes pendant ce moment-là, et aussi pendant le moment où ses amis ont été tabassés par la suite. Donc c'est un peu contre...
Les policiers récusent, hein.
Oui, bien sûr. Mais ça, heureusement qu'il n'y a pas le son sur la vidéo, j'ai envie de dire, parce que ce qui me fait aussi peur, en fait, avec cette affaire. C'est exactement comme ce qui s'est passé avec l'affaire Théo, par exemple, où il y a eu où le témoignage des forces de l'ordre contredisait celui des victimes. C'est que s'il n'y avait pas la vidéo aujourd'hui, Michel Zecler serait sûrement en prison. Parce que les policiers qui ont commis ces actes, en fait, ont fait une déclaration accusant Michel de les avoir attaqués, ce qui est très visiblement faux. Moi, la question que je me pose, c'est combien de Michel Zecler sont aujourd'hui en prison. J'ai vu des déclarations de juges sur Twitter étant choqués de ces vidéos, se demandant s'ils ou elles ont pas déjà prononcé des jugements à l'encontre de certaines personnes suite à des déclarations faussées, quoi.
Bon, je rappelle que dans l'affaire Théo, trois policiers impliqués dans l'interpellation violente seront jugés, c'est assez rare d'ailleurs, devant une cour d'assises pour violence volontaire. Et le parquet de Bobigny avait confirmé cette information il y a quelques jours maintenant déjà. Donc c'est important parce que la justice aussi fait son travail, et la preuve c'est que ces policiers vont être traduits, on verra, devant une cour d'assises.
Oui. Il est vrai que dans certaines affaires particulièrement médiatiques, des policiers se retrouvent devant le tribunal grâce aux images. Mais il est vrai aussi, et je pense que ça c'est un peu de notoriété publique, qu'il y a énormément d'affaires qui sont conclues par des non-lieux, que l'IGPN tarde particulièrement sur certaines affaires à traiter les témoignages, les images, etc.
Je me méfie toujours quand vous dites de notoriété publique et de ça. Vous savez, les policiers, c'est sans doute une des professions qui est parmi la plus contrôlée. L'IGPN existe, le nombre de fonctionnaires de police qui sont sur le terrain chaque jour, vous n'éviterez pas des bavures, hélas, parce que c'est dans la nature humaine, vous ne pouvez pas éviter des bavures. Je trouve effectivement que ces bavures, elles doivent être, et comme elles le sont d'ailleurs aujourd'hui, elles doivent être traitées par la justice, et la justice suit son cours. Alors vous vous dites, il y en a plein qui ne sont pas traités. C'est ça ce que vous dites. Il y a plein de choses qui ne sont pas traitées. Moi, je vous assure, je connais beaucoup de policiers. Aujourd'hui, plus personne ne veut être dans la police. Tu te fais insulter toute la journée. Tu ne te fais pas respecter. Tu te fais mépriser. Dans certains quartiers, tu n'entres pas ou tu risques ta vie. Tu as peur toute la journée. Vous avez 24 ans, Baptiste. Vous aimeriez être policier ?
Moi, j'en connais certains aussi, je dois dire, et je vous avoue que de par mon parcours, je pense que je vais pas du tout vers ce.
Mais je suis d'accord, mais convenez qu'il faut bien une société. Il faut les aider.
Alors,
les policiers.
Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être prof non plus. Enfin,
non, mais il faut les aider, les policiers. Vous avez 24 ans. Si vous pensez déjà que la police est plus souvent pourrie que le contraire. Moi, ça m'ennuie de vous entendre dire ça, parce que vous êtes jeune.
Je n'ai pas dit que la police est plus souvent pourrie que le problème.
Vous ne l'avez pas dit.
J'ai dit qu'il y avait un problème vis-à-vis des violences policières, parce qu'il faut appeler les choses comme ça.
Non, c'est des violences de policiers. Moi, je récuse toujours le mot violence policière.
Même le gouvernement, maintenant, même des ministres du gouvernement utilisent ce terme, qui était récusé il y a un ou deux ans.
Je suis d'accord avec vous, ils ne devraient pas le faire. Mais bon, ils cèdent à la... C'est des violences de policiers.
Oui, il est vrai, mais le.
C'est comme si je disais une violence journalistique, ça n'aurait pas de sens. Je pourrais dire violence de journaliste, mais pourquoi essentialiser toute une profession ?
Alors, il semble que ces violences, en fait, obéissent à plus de cohérence que simplement la nature psychologique d'un trouble de tel ou tel individu. Enfin, derrière la notion de violence de policier ou de bavure, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est comme si c'était le fait simplement que tel ou tel individu était dérangé. Moi, je pense qu'il y a aussi des systèmes qui sont mis en place.
Mais vous avez
qui sont
sans
un
doute
peu pervers,
raison, bien sûr,
et qui mériteraient, en fait, d'être largement discutés à un niveau national.
Mais la police...
Et je pense que la loi sécurité globale contre laquelle j'ai manifesté avec plus d'une centaine de milliers de personnes samedi, va à l'encontre de ce mouvement-là. C'est-à-dire au lieu de
rester avec nous, on laisse passer une page de pub parce que vous, d'abord ce que vous dites est très intéressant et puis comme on n'est pas d'accord, c'est toujours plus intéressant de parler. Vous allez me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette loi et moi je vais vous relire la loi parce que je ne comprends pas. Donc j'espère que vous allez pouvoir me convaincre. Pourquoi pas ? À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Baptiste a 24 ans, il est étudiant à Plouermel et c'est intéressant de discuter avec lui parce que c'est très argumenté ce qu'il dit. Et puis, je pense, c'est ça qui me fait un peu peur pour tout vous dire, Baptiste, c'est que beaucoup de jeunes gens peuvent penser comme vous. Et c'est ça qui
désolé.
Me... Non, mais désolé, non, mais je trouve que ces sujets sont souvent générationnels. Et ça m'ennuie que des jeunes gens puissent penser que en France, les bavures sont oubliées, ou en tout cas, on met un voile dessus, et je vois pas, moi, la police comme vous la voyez, vous. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi contestez-vous la loi sécurité globale, et notamment le fameux article 24, à qui on fait dire, me semble-t-il, des choses qui ne sont pas inscrites dans la loi.
Bon, moi je pense qu'il y a, enfin, vis-à-vis de cette loi, c'est bon, déjà elle est très floue, tout le monde le dit. La liberté ou pas de diffuser des images serait dépendante de l'appréciation du policier sur sa santé physique ou psychique. Donc, enfin bon, c'est extrêmement flou. Et je pense que, enfin moi je regarde plutôt la manière dont ça agit autour de moi et un peu dans le réel à partir du moment où cette loi est discutée, c'est Place de la République mardi dernier, où des journalistes ont directement, et enfin c'est directement lié à cette loi aussi, été attaqués pour certains, pour Rémi Buzyne, molestés par des policiers. Donc je pense que c'est aussi des libertés qui sont permises par le passage de cette loi qui n'était pas là avant, et du coup aussi qui ne permettait pas ces actes-là, et ça beaucoup de journalistes le remarquent en fait. Donc moi c'est plutôt ça qui me fait peur, c'est que sur le papier cette loi elle est très sympa, elle permet d'éviter la diffusion d'images médisantes, etc. Mais dans la pratique, c'est une vraie limitation du travail.
Ouais, mais donc on est d'accord que de dire que sur le texte, vous n'avez pas forcément quoi remettre en cause. Alors après, sur la pratique...
Si, je pense, parce qu'il y a aussi une généralisation de la vidéosurveillance, il y a aussi une augmentation de l'utilisation.
Est-ce que vous êtes contre la vidéosurveillance? Moi, je sais que s'il n'y avait pas de vidéosurveillance à Nice... L'homme qui est entré dans l'église, il en tuait 5 ou 6 autres personnes. C'est la vidéosurveillance qui a permis de savoir que, il se passait quelque chose dans cette église. Donc les policiers sont arrivés très vite, ils étaient armés également, la police municipale est armée à Nice. Donc c'est important la vidéosurveillance.
Ouais, c'est très important, et puis ça vient d'endroits qui ont connaît un état de droit très respecté, comme par exemple la Chine où ça a été très
Baptiste,
très largement.
Nos sociétés, elles sont plus, comment dire, c'est pour ça qu'il faudra un jour un grand débat, que chacun donne son avis. Je vais vous dire, oui. Ou sous forme de référendum, j'en sais rien. Nos sociétés, elles vont être de plus en plus
autoritaire. Oui, on le voit bien avec la marge du gouvernement. En fait,
je pense qu'elles sont moins autoritaires qu'avant, je vous assure. Mais ça, sous De Gaulle, c'était demander aux journalistes qu'on travaillait sous De Gaulle, et la société, elle était différente, hein. Parce que là, vous n'auriez pas eu le droit de parler. C'était il y a 50 ans, vous n'auriez pas eu le droit de parler comme ça au micro, comme vous le faites depuis 10 minutes, hein. C'est ça la réalité.
J'ai l'impression qu'il y avait plein de contre-pouvoirs qui existaient aussi. Ce dont j'ai l'impression, c'est qu'avec le confinement qu'on vit actuellement, avec énormément de mesures qui semblent arbitraires, des décisions qui sont plutôt économiques que sanitaires parfois, des aberrations comme celle des attestations qui sont presque présentes dans aucun pays du monde, la loi sécurité globale, du coup, qui généralise des pratiques autoritaires et d'observation généralisée de la population, alors qu'on est dans une période de confinement et que personne peut vraiment participer à un débat public autour de ces questions qui, pour moi, regardent toute la population française, exactement comme la question des violences policières. Toutes ces questions-là, en fait, elles me
semblent... Vous trouvez qu'elles sont mises sous le tapis. En tout cas, je vous ai donné un peu plus de la parole, peut-être qu'on me donne généralement un auditeur, mais d'abord, vous êtes jeune et étudiant, et c'est intéressant. C'est pas toujours un profil qu'on a durant les auditeurs ont la parole, et puis c'était très intéressant de vous écouter. Il reste juste 2 minutes, je voulais qu'on soit avec Nicolas, puisqu'on va, Nicolas qui est prêtre dans la Somme, qu'on a eu plusieurs fois déjà. Bonjour monsieur l'abbé, et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Nous allons évoquer, évidemment, les messes de 30 personnes, et vous allez me dire comment vous vous organisez.
Eh ben, écoutez, c'est pas compliqué, hein. Comme ça nous semble essentiel de respecter la loi, moi je vois à la paroisse, on a multiplié les messes. Moi, je suis passé de 3 messes à 5 pour réussir à accueillir toute la communauté. Et finalement, ben voilà, comme naturellement, les gens se sont répartis entre les 5 messes. Il n'y a vraiment rien eu à gérer, ça s'est fait tout seul.
Et vous étiez combien avec... 30 à chaque fois?
Eh ben, à chaque fois, on a été 30 à peu près, oui.
Mais c'est une petite chapelle.
Non, moi j'ai des grandes églises. Moi, les deux églises où j'ai choisi de célébrer parce qu'elles offrent toutes les possibilités avec allée latérale pour pas qu'on se croise et tout ça, elles font 400 mètres carrés chacune.
Ouais, donc, en tout cas, la jauge va être remise à l'ordre du jour. Et le Conseil d'État a demandé au gouvernement de revoir sa copie. Merci, monsieur l'abbé. C'était très court, mais nous sommes déjà en retard. Et moi, je vous propose cette vraie question. Monsieur l'abbé, qui êtes-vous pour jauger?
Ah ben ça finit bien.
Bon, exactement.
On dira que c'est le mot de la fin.
Qui êtes-vous pour jauger? À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Alexandre de Saint-Aignan.
La course au vaccin contre le coronavirus, le laboratoire américain Moderna annonce déposer aujourd'hui des demandes d'autorisation pour les États-Unis et pour l'Europe aussi, 2 semaines après des résultats très concluants, 94% d'efficacité. L'autre vaccin conçu par Pfizer, lui, pourrait déjà être autorisé aux États-Unis dès le 10 décembre prochain. En France, la Haute Autorité de Santé a préconisé ce matin de vacciner en premier tous les pensionnaires des EHPAD et leur personnel soignant. Ce sont les prochains best-sellers des librairies pour Noël. Le prix Goncourt a été décerné à Hervé Le Tellier pour L'Anomalie, le prix Renaudot pour Marie-Hélène Lafont avec son roman Histoire du fils. Pas de grande fête au restaurant parisien Drouan cette année, mais une cérémonie en visioconférence à cause de l'épidémie. Réunion à l'Elysée autour du projet de loi sur la sécurité globale après un week-end de manifestation contre ce texte. Emmanuel Macron a réuni en urgence plusieurs ministres et des membres de la majorité. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera entendu peu après 18h devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et Nicolas Sarkozy dénonce des infamies à la reprise de son procès. L'ancien président de la République est jugé pour corruption une semaine après un faux départ de son procès. Il s'agit de l'affaire des écoutes téléphoniques. Le ciel assez largement bleu aujourd'hui, ensoleillé, quelques nuages quand même et parfois de la grisaille au nord de la Seine et au-dessus de l'agglomération lyonnaise. Les températures cet après-midi, 1 degré seulement à Strasbourg, 5 à Paris, 6 à Rennes, 7 à Lille et 14 degrés à Marseille.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Bernard Lehu, que vous connaissez, est avec nous parce qu'on va parler du Goncourt et plus généralement de la lecture. Merci, cher Bernard, d'être avec nous. Présentation de cette demi-heure avec l'ami Laurent Tessier.
Avez-vous le goût de la lecture? 9 Français sur 10 se déclarent lecteurs. Et une moyenne nous interpelle tous. Les Français lisent en moyenne 21 livres chaque année. Ce sont les femmes qui lisent le plus, ainsi que les personnes de plus de 65 ans. Que vous apporte la lecture? Fanny Ardant avait répondu à cette question en 2016 au micro de Stephen Bellery.
J'ai jamais lu pour me cultiver. J'ai lu pour échapper à la réalité ou pour se sauver. Donc moi, j'ai lu pour ça.
Le livre est source de plaisir et de découverte à domicile, dans les lieux publics, les transports en commun. Le moment privilégié reste le soir avant de se coucher. Et la bonne nouvelle, le goût de la lecture n'est pas qu'une question de génération.
J'adore lire parce qu'on va découvrir de très belles choses ou de la tristesse, de l'aventure, des mystères.
J'aime bien Alice au Pays des Merveilles parce que c'est un conte et moi je suis plutôt du genre conte. Quand tu lis, tu découvres, tu peux imaginer, c'est des fois rigolo.
Les 15-24 ans lisent plus qu'en 2017, notamment des bandes dessinées, des mangas, des romans de science-fiction. Les parents ont un rôle clé.
En achetant régulièrement et en lisant aussi beaucoup nous-mêmes. Par mimétisme social, l'enfant va se rendre compte que c'est une habitude, c'est quelque chose d'intéressant. Puis on partage plein de moments ensemble.
La seule chose, pour que ce soit des vrais lecteurs, il faut que les parents donnent des livres très tôt.
Et sachez-le, les hommes cherchent en priorité à approfondir leurs connaissances. Les femmes lisent surtout pour se faire plaisir ou s'évader, selon une enquête Ipsos. La lecture, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé. Notre médecin Michel Simès nous le rappelait. Plus d'attention, de concentration et donc le cerveau
cerveau augmente son activité.
Une fois que vous avez refermé un livre, votre cerveau, lui, continue sur sa lancée. C'est-à-dire qu'on garde en tête ce qu'on vient de lire, ça fait fonctionner l'imagination, ça remplit la boîte à souvenirs, bref, ça renforce la connectivité neuronale.
Alors, avez-vous le goût de la lecture ? Quel lecteur, lectrice êtes-vous ? Préférez-vous les romans, les essais, les biographies, les bandes dessinées ? Que dire à son ado qui passe son temps à lire sur des sites internet ?
C'est le mauvais argument. Hein. Il y a lire et lire. Lire une page internet et lire une page imprimée, la lecture d'une page web fait travailler les régions du cerveau liées à la prise de décision ou la résolution de problèmes. Alors je dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est un peu hors sujet.
Quel est votre coup de cœur en ce moment ? 24% des Français sont lecteurs de livres numériques. Préférez-vous la version papier, le plaisir de tourner les pages ? Avec nous en studio, le monsieur livre de RTL, Bernard Lehu.
Et ça nous fait tellement plaisir. Depuis combien de temps vous faites les livres à RTL, Bernard ?
Eh bien, il y a 20 ans, cette année, 20 ans depuis la rentrée dernière, et les 20 ans également de Laissez-vous tenter, notre rendez-vous culturel, alors, du matin à 9h.
Alors, nous, on lit tous par plaisir, mais vous, vous êtes quand même obligé de lire, et ça, c'est un mystère, parce que lire un livre, quand on n'aime pas le lire, c'est une des pires souffrances de la vie. Depuis le 1er janvier 2020, vous avez lu combien de livres ?
Oh, ça, c'est la question rituelle. C'est difficile de donner un chiffre comme ça, de manière abrupte. Je dirais que je vais raisonner en moyenne sur l'année et par semaine. Je lis 4 à 5 livres par semaine, ce qui est un minimum, puisque ça correspond aux 4 ou 5 rendez-vous que j'ai à l'antenne avec les auditeurs.
On va parler de la lecture. Il y a une dame qui disait qu'il faut apprendre très tôt à lire. Est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu et à quel âge vous l'avez lu ?
Alors, le vrai livre, enfin c'est terrible de parler comme ça, parce qu'on a tous commencé par les petits livres illustrés, la bande dessinée, mais sinon, la première fois où j'ai eu l'impression, la sensation d'avoir un livre comme les grands, comme les adultes, entre les mains, c'était Les Lettres de mon moulin, d'Alphonse Daudet, qui m'ont enchanté, puisque moi-même étant originaire du Nord, un pur ch'ti de découvrir cet univers de la Provence et du midi de la France, évidemment j'étais subjugué. Voilà, c'est le premier souvenir comme ça qui revient à la mémoire.
Alors, vous savez que les auditeurs vont aimer vous poser des questions. C'est peut-être le cas déjà de Géraldine. Bonjour Géraldine. D'abord, ce sont des femmes qui appellent parce qu'en France, les lecteurs sont des lectrices.
Oui, selon l'adage bien connu. Le lecteur est une lectrice.
Bonjour Géraldine.
Bonjour.
Est-ce que vous allez acheter par exemple le prix Goncourt ? Est-ce que vous connaissez cette actualité ? Est-ce que vous savez de quoi il parle ?
Alors, je vais me le faire offrir. Mon mari est en train d'écouter la radio, je vais me le faire offrir. Voilà, donc c'est un message subliminal. Voilà, j'ai vraiment hâte. Je viens d'écouter les résultats et j'ai vraiment hâte de l'avoir pour Noël.
Pourquoi vous lisez, Géraldine ? La question, vous savez, qu'on posait en 6e en rédaction. Pourquoi lisez-vous ?
Pourquoi ? Parce que j'ai toujours été habituée. Ma mère était une ancienne bibliothécaire. On a toujours été habitués à avoir des livres à la maison. Quand mes enfants, donc j'ai 3 enfants, Louis, César et Rosalie, quand ils ont été plus petits, ils ont tout de suite été abonnés à l'école des loisirs. Enfin, c'était le passage un petit peu obligé de la lecture avec maman, quoi. Et puis avec mon mari aussi qui lit énormément, peut-être même plus que moi. Peut-être même plus que moi.
21 livres par an, lus par les Français, Bernard Lehu, ça vous étonne ? En moyenne, moi, ça m'étonne.
Mais dans quel sens ?
Je trouve ça énorme. Ça fait 2 livres par mois.
Oui, mais c'est une moyenne. Vous savez qu'alors, il y a...
Je me suis dit que les gens trichaient un peu.
Il y a des gens qui ne lisent pas. Bon, ça doit exister, malheureusement, quelques-uns. Et puis, il y a surtout ce qu'on appelle les grands lecteurs, et qui, alors là, sont vraiment des cannibales du livre, et lisent énormément, sans doute même plus que moi. Et je pense que c'est cet ensemble qui donne cette moyenne, ce chiffre de 21 livres. Et puis, dans ces 21 livres, je pense qu'on comptabilise tout. Hein, les romans, mais des essais, peut-être des livres d'actualité, documents, etc. Donc non, je pense que c'est un chiffre qui doit être assez proche de la vérité.
On va marquer une page de publicité. Qu'est-ce que vous conseillez de lire à ceux qui en ont assez, par exemple, qui ne peuvent plus lire du tout, qui sont fatigués ? Est-ce que aujourd'hui, vous leur dites lisez un roman, prenez un essai dans ce qui vient de sortir.
Bon, ben je pense que là où la part de plaisir est la plus importante, ça reste le roman, la fiction, et qui d'ailleurs est quand même très souvent aussi un reflet du monde dans lequel nous vivons et qui est souvent plus juste que ce qu'on peut lire dans les journaux ou ce qu'on peut voir à la télévision.
Bon, 14h08, on va laisser passer une première page de publicité. Vous pouvez poser des questions à notre ami Bernard Lehu. Et lui, il est obligé vraiment de lire, même des livres parfois qui doivent vous barber.
Ah bah non,
mais vous allez au bout.
Mais j'abandonne, évidemment.
Ah, vous
ah bah le critère, c'est celui-là, c'est celui du plaisir.
Ah, vous abandonnez les bouquins.
Bah oui, mais pourquoi se faire mal? C'est Daniel Pennac, vous savez, qui expliquait ça.
Mais moi, je suis d'accord, mais je pensais que vous étiez obligé de lire.
Dans roman. Mais non, si je trouve le livre mauvais, si ça ne me
mais là,
pas.
Mais là, dans la dernière sélection des Goncourt, vous étiez allé au bout de chaque livre?
Non.
Mais heureusement que le livre, le tellier, vous étiez.
Oui.
Vous
étiez... Ben voilà.
Ah ben heureusement.
C'est parce que je le savais.
Bon, à tout de suite.
Avec un peu de chance.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Juliette avait encore son nez, Aragon n'était pas un minet.
C'est une petite bande originale avec des écrivains. Aragon, romancier, poète. Alors, Colette est là. Colette sera là, plus exactement, parce que Monique est là. Monique qui habite en Loire-Atlantique. Parlez-nous, bonjour. Monique, du rapport que vous avez à la lecture. Le dernier livre, par exemple, que vous ayez acheté.
Oh là, les derniers, j'en achète toujours 5 ou 6 à la fois. Alors là, j'ai dû acheter Bernard Minier, j'ai acheté... Agnès Martin-Lungan, là je suis à lire Alpha, à l'affaire Burke, Arlène Coben, enfin voilà, j'en ai Marie-Bernadette Dupuis, enfin voilà quoi. Moi je suis une dévoreuse de livres, je lis des livres, moi j'en lirais 15 par mois, ce serait, voilà, pas mentir.
L'avis de Bernard sur la sélection que vous avez produite?
Ah bah, très bonne sélection, notamment celle de Bernard Minier. Vous avez acheté le dernier, La Vallée.
Oui, mais j'ai découvert Bernard Minier pendant un voyage. J'avais pas de livre, j'avais plus de livre à lire, alors j'ai acheté son premier en livre de poche. Et puis quand moi il y a un auteur qui me plaît, bah, après je prends la collection, enfin je prends tout et j'ai tout lu Bernard Minier, j'adore.
C'est vrai qu'il y a souvent ce compagnonnage entre des lectrices ou des lecteurs avec un auteur, un lien de fidélité qui se crée. Ouais. C'est le cas en particulier avec Bernard Minier. Ouais.
Bernard Minier, pour ceux polar. Qui ne connaissent pas, ce qui est mon cas d'ailleurs, je ne connais pas Bernard
Minier. Bernard Minier, ou comment?
Parce que ouais, je connais son nom, mais je ne lis plus de polar. Vous savez pourquoi je n'en lis plus de polar.
Auteur de
parce
polar.
Qu'on fait.
Voilà. C'est du policier, Bernard Minier.
J'en ai trop lu peut-être, ouais. mais je n'en lis plus.
L'un des maîtres français du polar. Aujourd'hui, oui. Puis alors, avec toujours une résonance avec l'actualité, ce qui est le cas dans La Vallée, là, le dernier, qui est extrêmement intéressant, qui parle des gilets jaunes d'une certaine manière. Voilà.
Mais moi, c'est ça, quand il y a un auteur qui. Voilà, j'achète des fois des livres au hasard, enfin, voilà. Et puis quand il y a un auteur qui me plaît, bah, j'achète la collection après, je prends tout ça. Voilà.
Votre sélection, il y avait Plus fort qu'elle, c'est ça, de Jacques Expert également?
Oui.
C'est important de le dire parce que c'est un ancien de la maison d'RTL qui s'est reconverti brillamment dans l'écriture de policiers.
Voilà, il y a des faits divers, il y a des témoignages. Enfin voilà, je suis très, je vois un peu tout. Enfin voilà, c'est.
Combien de temps vous lisez chaque jour?
Faut pas compter.
Par exemple aujourd'hui là, il est 14h13. Est-ce que vous avez déjà lu ce matin?
Ah oui. Ah bah oui, au petit déjeuner, je prends un petit déjeuner pour pas mettre plus de temps à prendre mon petit déjeuner, j'ai mon livre avec moi.
Tout en écoutant la radio, j'espère.
Ah bah il y a la radio aussi, parce que RTL, c'est depuis ma petite enfance, RTL.
Donc vous avez lu au petit déjeuner, après, je sais pas, c'est votre activité.
Après, bah, je suis allée faire mon activité, ma marche pendant une heure, ouais. J'ai mon petit-fils à garder, mais là, en vous attendant, j'avais mon livre dans les mains. Mais moi, c'est une drogue, enfin c'est... Je peux pas m'en empêcher. J'ai besoin de lire, j'ai besoin de... Voilà.
Donc il n'y a pas eu une journée sans livre depuis votre petite enfance peut-être?
Ah ben oui, parce que j'ai commencé à lire, j'avais 12-13 ans et il y a toujours eu un livre à la maison, hein. toujours.
Et vous lisez des classiques aujourd'hui parfois, vous retournez vers des écrivains?
Oui, Victor Hugo.
Ah, je crois qu'on a été coupé. Merci en tout cas, Colette, parce qu'on sent dans vos... Monique, pardon, excusez-moi, mais merci Monique, et on sent dans vos veines couler
Ah ben, j'adore.
Exactement.
J'adore le livre.
Justement, Colette, elle est partie pour le coup.
Non, je suis là.
Ah ben vous êtes là, Colette. Oui, c'est parfait parce que je ne vous voyais plus sur mon ordinateur. Alors vous, pareil, question. Quel est le dernier livre que vous ayez acheté ?
Alors moi, je suis en train de finir le troisième volume de Bernard Werber sur les chats, La planète des chats. Il a écrit trois livres sur la prise du pouvoir par les chats. C'est formidable. J'adore ce. Alors, c'est un peu original, hein, il faut aimer. Mais j'aime beaucoup, à part ça. Ben, c'est vrai que, alors, bon, moi, je suis peut-être pas au niveau de la personne précédente, mais c'est une vraie passion, la lecture. Ça, c'est... Alors, moi, ce que je fais, je lis un livre. Après, pour me sortir vraiment de l'histoire, j'achète. Alors, beaucoup de revues d'histoire, parce qu'il y a des revues, des hors-séries, style hors-série du Figaro, tout ça, sur l'histoire, c'est une passion, l'histoire. Donc, j'alterne avec des revues pour vraiment changer de monde, et après, je réintègre un livre, et entre-temps, j'achète aussi pas mal la presse, notamment le Figaro Week-end, avec le Figaro Magazine, etc. J'aime beaucoup. Donc, c'est un peu un petit mélange, comme ça, ça tourne constamment. Et alors moi, la lecture, c'est indispensable. Je lis, alors peut-être pas autant que la dame, mais je lis bien, on va dire, en tout, 1h30 par jour, on va dire.
Et Colette, comment vous choisissez vos livres ?
Alors, j'écoute beaucoup Monsieur U, justement, sur RTL, c'est-à-dire tous les matins déjà, enfin, quand toutes les nouveautés qui sortent. Là, j'ai entendu le sujet du nouveau Goncourt, je pense que je vais l'acheter parce que ça me tente bien. J'ai lu récemment aussi Le bal des folles de Victoria Mas, qui était un livre formidable.
Oui, formidable, premier roman, oui, oui.
Ah, vraiment, un livre majestueux. Et puis, j'ai lu La fièvre aussi, précédemment, de Sébastien Spitzer, qui est un roman assez original aussi, que j'ai bien aimé. Enfin, je suis pas... c'est vrai que, bon, j'aime beaucoup les policiers. Alors, Bernard Minier, maintenant, il me déçoit un petit peu, je dois dire. Mais je lui préfère Jean-Christophe Granger. Enfin, des tonalités un petit peu plus, on va dire...
Hard. Jean-Christophe, c'est un peu hard, ça. Jean-Christophe Granger. Ouais. Un mot quand même sur Bernard Werber, parce que c'est un des grands succès littéraires... cette série sur les chats, et puis même avant c'était les fourmis.
Les fourmis, il a commencé avec les fourmis, et là il poursuit avec les chats. Oui,
c'est un énorme succès.
Et bien sûr, énorme succès, là aussi un public très fidèle, et puis une littérature nourrie par sa formation. Au départ, c'est un amateur de science, il était chroniqueur scientifique au Nouvel Observateur, enfin l'Obs comme on dit maintenant, et il n'a jamais perdu cette fibre-là scientifique qu'on retrouve dans la plupart de ses livres.
Continuez de nous appeler, mais je remarque que Laetitia va être là, ça confirme, c'est-à-dire que ce ne sont que des femmes qui nous appellent.
Je pense qu'il n'y a que des femmes qui vous écoutent, Pascal.
En tout cas, ce serait bien qu'un homme nous dise sa passion, pourquoi pas, pour les romans. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes avec Bernard Lehu, on parlera évidemment du Goncourt dans une seconde, et il nous en a parlé tout à l'heure avec Christelle Robière, et puis peut-être du Renaudot, et puis du prix RTL Lire également.
Oui, alors ça, ce sera en mars prochain. On essaye un peu tôt là. Établir la première sélection.
Bah, bien sûr.
Je raconte un peu la cuisine.
Bah, bien sûr,
Une première liste d'une dizaine de titres là, à la fin de l'année, qui concerne la deuxième. Vous savez que c'est comme à la SNCF, un train peut en cacher une autre, une rentrée littéraire peut en cacher une autre. Donc il y a la rentrée de l'automne dont on parle en ce moment, couronnée par les Grands Prix. Et puis il y a une rentrée aussi très importante en début d'année, janvier-février. Et donc on va choisir 10 livres dans cette rentrée là. Ensuite, ce sont 100 lecteurs qui vont lire 5 finalistes que nous choisissons à partir de cette liste de 10 livres, et on aura le résultat en mars.
Et il y avait le Grand Prix RTL de la BD.
Oui, alors ça, c'était ce matin.
Qui était bien sûr. Ce matin. Mais oui, donc, Podome. Disons un mot.
Podome, voilà. Alors ça, la spécialiste de la bande dessinée, c'est Monique Younes chez nous. Mais Podome, oui, très, très belle bande dessinée, publiée chez Glénat, qui a donc été sacrée Grand Prix RTL de la bande dessinée.
Vous
2020.
Lisez la bande dessinée?
Je n'ai plus le temps, malheureusement.
Vous aimiez?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai été nourri comme vous aussi.
Mais non, parce que j'ai jamais lu de bande dessinée.
Tintin, Astérix.
Je peux pas vous dire, je ne la lisais pas quand j'étais enfant. Moi, mes premiers livres, c'était La Comtesse de Ségur, Dilois le cheminot, on me faisait lire ça, La Comtesse des petites filles modèles, L'Auberge de l'Ange gardien.
Très bonne base.
Très classique. Alors là, je ne sais pas quel âge on a, 7 ans, 8 ans. Laetitia est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors, quel est le dernier livre que vous ayez lu, Laetitia ?
Alors, je suis en train de finir le dernier Guillaume Musso, celui qui a été réédité.
Ah,
pour tout premier.
Skidamarink.
Oui, voilà, vous le dites mieux que moi.
Et c'est bien ?
Ah oui, c'est très bien. Ah oui, là, je suis aux trois quarts, là. C'est très, très bien.
Qu'est-ce que vous aimez chez Guillaume Musso ?
Sa manière d'écrire, je les ai tous lus, tous ses livres. Mon premier que j'ai commencé, c'est quand j'étais enceinte de ma première fille. Et c'est vrai que du coup, depuis que j'ai commencé, je continue à le lire. J'aime beaucoup aussi Marc Lévy.
Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ces deux auteurs-là, disons-le, sont snobés par le monde littéraire. Ils n'auront jamais aucun prix. Jamais Marc Lévy n'aura le prix Goncourt, Guillaume Musso n'aura le prix Goncourt.
En même temps, ils n'en ont pas besoin,
mais comment,
sommet de leur vente.
Comment vous êtes. D'abord, vous les lisez, j'imagine, l'avis que vous portez sur eux, mais c'est vrai qu'il y a une forme de. Il n'y a rien de plus snob que le milieu littéraire, disons-le. Bon, ils sont pris pour des romans de gare, mais Simenon était aussi pris pour un roman de gare il y a 60 ans.
C'est ce qu'on appelle la littérature populaire, et c'est un terme que je n'utiliserai jamais de manière péjorative. Toutes les littératures sont bonnes, et on peut accéder à la lecture par tous les types de livres.
Mais pourquoi ils sont dans aucun prix jamais ? Pourquoi ils sont dans aucune sélection ? C'est parce qu'ils n'ont pas ce niveau-là, d'une certaine manière. Vous trouvez que c'est injuste ou vous trouvez que c'est normal ?
Il y a une forme d'injustice et une grande forme de snobisme dans un certain milieu littéraire parisien. Enfin, une certaine critique littéraire parisienne qui ne connaît même pas ces livres, je pense, n'a pas la curiosité d'aller ouvrir un Guillaume Musso qui a en effet un sens de la narration très intéressant, qui est un très très grand lecteur lui-même, fils de bibliothécaire. Guillaume Musso est un garçon qui a une culture littéraire phénoménale, qui adore parler de littérature, de livres. Voilà, donc il n'y a aucune raison de mépriser un auteur comme Guillaume Musso.
Bon, Laetitia, vous l'avez acheté quand ? Vous l'avez commencé quand, le livre de Guillaume Musso ?
La semaine dernière, mercredi.
Mais là, comme vous travaillez, quand est-ce que vous lisez d'ailleurs dans la journée ?
Alors moi, je lis surtout le soir, parce que les journées sont bien remplies, on va dire, au travail. Après le lundi, lundi je suis de repos, donc vous voyez, je vous écoute. Et en même temps, j'arrive à me trouver du temps pour moi pour lire. Sinon, le reste du temps, je lis beaucoup plus à mes enfants qu'autre chose. Parce que j'ai une petite fille donc qui a 7 ans, qui est une passionnée de livres. Depuis toute petite, on lui a mis des livres, c'est vrai, entre les doigts. Et depuis, elle ne s'arrête pas, elle va lire du matin au soir. C'est comme, je crois que c'était Colette qui disait ça, que des fois elle lisait au petit déjeuner pour aller plus vite. Moi, j'ai mes enfants qui me sollicitent pour qu'au petit déj, je lise des histoires.
Il y a des parents qui doivent vous envier, parce que parfois les parents sont obligés d'imposer à leurs enfants de lire un livre.
Ah oui, tandis que non.
Et les enfants rechignent.
Ouais, le matin, elle est réveillée avant que son réveil sonne, et je vais ouvrir sa chambre, elle est déjà en train de lire. L'après-midi, avant d'aller faire une petite sieste, ou le soir avant de dormir, il y a toujours le quart d'heure où elle lit pour elle toute seule, plus nous, où on lui lit aussi une histoire. Elle sait lire toute seule, mais elle a besoin de ce moment à elle, où on lui accorde du temps, on lit aussi avec elle. Et pareil pour notre petit dernier qui a 3 ans. Ça va être des fois papa qui va lire l'histoire à la grande, et moi je lis l'histoire au petit, et ainsi de suite. Là, Noël arrive, ils ont ressorti, on a toute une collection de livres de Noël. Ah ça y est, on est reparti de temps. Mais bon, c'est sympa. Voilà,
merci vraiment beaucoup, Laetitia. Comme il nous reste très peu de temps, je voulais quand même qu'on évoque le Goncourt, parce que c'est le jour de Goncourt. C'est vrai que Bernard en a parlé tout à l'heure chez Christelle Rebière. Hervé Le Tellier, Gallimard, vous l'avez là, L'Anomalie, vous allez le conseiller pour Noël ?
Oui, alors parce que ça va faire, je pense, un très bon concours, car il réunit les deux critères que recherchent souvent les concours, c'est-à-dire qu'il y a une véritable qualité littéraire, notamment Hervé Le Tellier fait partie d'un mouvement littéraire qu'on appelle l'Oulipo, c'est-à-dire des auteurs qui s'astreignent, il y a des contraintes dans l'écriture, donc il y a un côté comme ça, un petit peu exercice d'école. Mais bon, et voilà, il a surpassé ça et il nous raconte une histoire absolument captivante. Donc c'est aussi un livre, je pense, avec un fort potentiel commercial et populaire. Cette histoire de cet avion qui, à 3 mois d'intervalle, va atterrir à Kennedy Airport, le même avion, les mêmes passagers. Un pitch, comme on dit aujourd'hui, donc un début d'histoire qui ressemble à une série de science-fiction. Et là-dessus, il nous entraîne, alors l'histoire est palpitante, mais il nous entraîne aussi dans une espèce de réflexion sur le double, l'identité. Enfin voilà, vraiment, c'est une... Je pense que ça va donner un bon concours et c'est surtout une très bonne nouvelle pour les libraires, car c'est un livre qui va se vendre fortement et les libraires en ce moment en ont besoin.
Et bien, c'était bien de parler lecture, littérature avec vous. Quel est votre tiercé des écrivains vivants que vous préférez?
Oh, comme vous y allez là, puis alors vous allez me fâcher avec beaucoup de monde en me demandant les vivants. Bon, ouais. Alors je vais citer un étranger, Paul Auster, l'américain Paul Auster. Enfin, ça, pour moi, voilà un écrivain qui me réconcilie tous les jours avec la vie.
Bon, bah écoutez, merci. Évidemment, les auditeurs vous adorent parce que vous faites passer avec tellement d'enthousiasme vos plaisirs de lecture. Et c'est important quand on est un chroniqueur. J'imagine que le mot critique littéraire, vous n'aimez peut-être pas trop.
Moi, je me présente toujours comme journaliste littéraire, oui. Parce que je suis d'abord un journaliste.
Et il y a d'enthousiasme. Vous n'êtes pas ami avec Bernard Pivot pour rien, parce qu'il y avait ça chez Pivot, une capacité à faire passer son plaisir et son enthousiasme. Et c'est finalement très très important. Grégory, le dernier livre que vous ayez acheté?
David Foinkinos, La famille Martin.
Ah oui, très amusant. Et brillant en même temps. Oui.
Toute la régie est là, Flavie Flamand. Alors Flavie
et je projette
écrit,
d'acheter les trains.
Formidable,
vrai,
Flavie Flamand. Formidable, et ça marche très très bien son livre. A tout de suite les amis.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL.